Jiddu Krishnamurti, son enseignement, une émission de Claude Ferré.
Bonjour Claude, de nouveau parmi nous. Cette fois-ci, on quitte la Russie du Nord et on s'en va vers le Sud, vers l'Inde. Et on va rencontrer quelqu'un que tu as connu et qui t'a marqué. Cet homme célèbre s'appelle Jiddu Krishnamurti. Et avant de démarrer quand même cette nouvelle série d'émissions, tu voulais quand même préciser quelque chose, Claude.
Bonjour Manu, bonjour chers auditeurs. Voilà, nous voilà de retour à la radio pour un autre sujet. Oui, Jiddu Krishnamurti, tout d'abord, je tiens à dire, avant de commencer ces émissions, que Krishnamurti, dont nous allons parler, n'a rien à voir avec une secte ou une organisation, quelle qu'elle soit. Je dis cela parce que son nom pourrait faire penser à la secte Hare Krishna, et que vous avez peut-être entendu parler. Je dois aussi dire aux auditeurs que je ne suis pas le représentant ni le disciple de Krishnamurti, Manu.
En période électorale, ça
oui,
peut...
Il faut quand même le dire. Personne, bien évidemment, ne m'a poussé à faire ces émissions, si ce n'est que mon propre élan, ma propre passion. Quelle est cette passion? J'ai toujours été attiré de comprendre ce qu'on appelle vivre parmi mes semblables, vivre tout court. Et puis je me suis aperçu que sans une connaissance de soi, sans une perception aiguë de tout ce que je suis, de comment je fonctionne, je resterai dans des ornières de pensée qui produiront de multiples préjugés, tu vois bien, des divisions, et jamais je pourrai être libre. Et donc par extension, je n'apporterai au monde que mes pauvres limitations. Voilà, donc c'est à partir, je le dis à nos auditeurs, c'est à partir de ce que j'ai compris personnellement de l'enseignement de Krishnamurti que je fais ces émissions. Et je n'ai aucune prétention de transmettre quoi que ce soit. Et donc je n'engage que moi-même dans ces émissions.
Alors Claude, toi, un paysan, comment as-tu rencontré Krishnamurti?
Ben voilà Manu, on est en 1971, j'ai 23 ans. Et je suis dans une phase de totale mutation par rapport à mon existence. Et je suis devant un grand vide. C'est effrayant, un grand vide. Et je ne pouvais plus du tout accepter la pression de la tradition familiale, tu vois, et sociale de mon village. Pourtant, j'avais été élevé en tradition, tu vois, paysanne. J'étais chez mes parents. Je vivais en Vendée, dans un petit village au bord de la mer, chez mes vieux parents qui étaient paysans. Mon père est né en 1903, ma mère en 1907. Je suis le fils aîné, destiné à cette époque-là à rester avec eux, tu vois bien, ou à reprendre la ferme. Je suis très attaché à mon village, sur le bord de la mer en Atlantique à cette époque. Alors les champs, la petite ferme encore primitive, ça me fascine, tu vois. Les grands espaces, le bord de mer, avec ses falaises où j'allais avec ma mère pêcher des berniques et des crabes. C'est les dunes, bien sûr, des grandes dunes au Sable d'Olonne. Hein. La forêt de pins, de chênes verts où j'allais avec mon père l'hiver chercher du bois, traverser le chenal avec le cheval quand la mer était basse, tu vois. Les marais salants, on faisait du sel avec mes parents, des marais poissons, j'ai même eu un parc à huit. Enfin, tout cela était pour moi l'univers dans lequel j'ai grandi depuis ma naissance. Et puis avec mon père, dès que j'étais tout petit, je travaillais la terre, je travaillais l'élevage, je labourais les champs avec le cheval et puis les deux vaches. Voilà, j'aimais la nature et la liberté. Et malgré tout, quand j'ai eu 18 ans, Manu, les questions effrayantes qui surgissaient en moi, quoi faire de ces questions par exemple, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Pas rien ça quand même, hein? Comment l'aborder? J'imagine qu'il y a beaucoup de gens de 18 ans qui doivent se poser ces questions aujourd'hui. Hein. J'ai pas de réponse pour eux, hein. C'est ma propre expérience dont je parle, hein. Quelle direction lui donner à ma vie? Ben oui, quelle direction lui donner si je ne suis plus en mesure, si je ne veux plus, si je ne peux pas perpétuer les traditions, si je ne peux plus vivre selon les références morales, sociales, culturelles dans lesquelles j'ai grandi. Et mon frère et moi, à cette époque-là, on échangeait beaucoup sur ce sujet.
Quel âge avait ton frère ?
Il avait 2 ans de moins que moi, mon frère. Il avait fait quelques études et moi j'étais resté paysan à la ferme. J'ai fait une école d'agriculture pendant 3 ans, mais je suis toujours resté à la ferme. Et mon frère et moi, on était très proches. Et c'est aussi, on parlait beaucoup avec mon frère et il est parti faire des études en 70, 69, 70, 71, oui. Et là, c'était l'après 68, quelque part aussi, hein. Donc il y avait toute une effervescence de réflexion sur la vie. Il y avait tous les courants nouveaux qui arrivaient, quoi, hein. Voilà, donc dans cette période, j'avais 23 ans, j'ai eu l'occasion, en 71, d'avoir un petit livre entre les mains, qui s'appelle « Se libérer du connu » de Krishnamurti. Je ne l'avais jamais lu, Krishnamurti, Manu, hein. Et « Se libérer du connu », j'ai appris récemment que c'était l'ouvrage le plus acheté de Krishnamurti, le plus lu, parce que très accessible et je trouve qu'il représente vraiment l'enseignement de Krishnamurti. Alors, nous, pour nous mettre dans l'ambiance de ces émissions qui vont suivre, de celle-ci aussi, nous allons entendre ce que je lisais. Un extrait, bien évidemment, ce que je lisais il y a 40 ans, un extrait de « Se libérer des connus ».
Au cours des âges, l'homme a toujours cherché un quelque chose au-delà de lui-même, au-delà du bien-être. Un quelque chose que l'on appelle Dieu, ou la réalité, ou l'intemporel, que les contingences, la pensée, la corruption humaine ne peuvent altérer. L'homme s'est toujours posé, au sujet de l'existence, la question fondamentale de quoi s'agit-il ? La vie a-t-elle un sens ? Plongé dans l'énorme confusion des guerres, des révoltes, des brutalités et des incessants conflits religieux, idéologiques, il se demande, avec un sens intime de frustration, comment en sortir ? Que veut dire vivre et s'il n'existe rien au-delà ? Et ne trouvant pas cet innombrable aux mille noms qu'il a toujours cherché, il a recours à la foi en un sauveur ou en un idéal. À la foi qui invariablement suscite la violence. En cette perpétuelle bataille que l'on appelle « vivre », on cherche à établir un code de comportement adapté à la société dans laquelle on a été élevé. Si l'homme ne change pas radicalement, s'il n'amène pas une mutation fondamentale en lui, il se détruira lui-même. Une révolution psychologique est possible aujourd'hui, pas dans 1000 ans. Nous avons déjà vécu depuis des millénaires et nous sommes toujours des barbares. Aussi, si nous ne nous changeons pas aujourd'hui, nous serons encore des barbares demain ou dans 1000 demain. Changez et vous verrez ce qu'il se passera. Chidu Krishnamurti.
Tout un programme. Quand j'ai lu ce petit livre, j'ai été très impressionné, bien évidemment, par cette démarche d'envisager la vie, cette manière toute nouvelle pour moi d'aborder l'ensemble de l'existence. Manu, ça remettait tout en question. C'est ce que je cherchais, quelque part. Et puis je me suis dit, non, tu n'es pas insensé, tu n'es pas fou de penser ainsi, d'avoir tous ces questionnements. Car à cette époque, Manu, dans mon milieu, se poser de tels problèmes était parfaitement insensé. Mes parents, les voisins, les amis, toute ma famille me disaient « Mais qu'est-ce que tu as donc à te casser la tête ainsi ? Va donc gendarme, facteur, chauffeur de camion, de bulldozer et tu seras tranquille toute ta vie. » Ah oui, mais c'est que ça m'arrangeait pas du tout.
Ça t'enchantait pas.
Ça m'enchantait pas du tout, alors. Alors, évidemment, quoi, ça m'a beaucoup interpellé que non seulement d'autres pensent de la sorte, mais approfondissent cette direction que je pressens devoir prendre. Cette direction, à mon sens, qui sent le vrai, le juste, une certaine forme de connaissance de soi, quelque chose qui ressemble au dévoilement de moi-même, à l'exploration intérieure. Cette attirance que j'avais déjà, comme si tu veux, Manu, de voir de voir au-delà de simplement de mon bout de nez, tu vois, du bout de mon nez, quoi, des apparences. Voir le monde tout sans le filtre de tous ces conditionnements que nous avons reçus. Sans toutes les images que nous avons pour aborder quoi que ce soit. Ce rapport, c'est vrai, ce rapport direct avec la vie me passionne. C'est pas évident du tout à réaliser, c'est tout un travail, quoi. Voilà, donc, mais comment s'y prendre maintenant avec tous ces questionnements ? C'est bien gentil de soulever toutes ces questions, et comment s'y prendre ? Comment contenir, transformer ce grand vide abyssal qui s'ouvre sous mes pieds et devant moi ? Je partis donc, l'été 1971, en quittant tout, en abandonnant tout. Mon travail, la famille, mon frère et moi, nous partons tous les deux, presque du jour au lendemain, pour la grande aventure. Lui, il quitte ses études, moi je quitte la ferme, la famille, tout. La jeune fille avec qui je devais me marier, tu vois, enfin, l'abandon total. Voilà, je pars à l'aventure, bien évidemment, Manu, au plus grand désespoir de mes parents. Et je me retrouve, mon frère et moi, l'été 71, à écouter Christian Murti à Sanon en Suisse. Tu vois pas où c'est, Sanon en Suisse. Où il venait, c'est un très bel endroit dans les montagnes, où il venait tous les étés donner une série de conférences à une foule de gens venant de tous les coins du monde. Et là, quelle nouveauté pour moi! Qu'elle de me retrouver là, parmi ces hautes montagnes suisses, moi qui habitais sur le bord de la mer, et me trouver à 1000 km de chez moi, faire des rencontres, et bien évidemment très différentes de ce que j'avais connu de mon village. Et surtout, voir, écouter, pour la première fois, Krishnamurti, c'était pas rien pour moi, quand même, qui s'exprimait en anglais à cette époque. Enfin, non, il s'est toujours exprimé en anglais. Mais à cette époque, je ne parle pas un mot de cette langue. Manu.
Tu l'as appris l'anglais ?
Je me débrouille un peu. Comme on dit en patois, je baragouine, mais je me débrouille un peu. Voilà. Parce qu'on parlait encore patois dans mon village. Hein. Donc, mais je suis fasciné tout de suite par sa présence, tu vois, le son de sa voix, ses regards vifs, cet homme perçant qui laisse entrevoir une puissante affection, un amour pour tout, c'est absolument fantastique pour moi. Alors il y a une énorme tente là qui est plantée, une énorme tente blanche qui accueille environ 2000 personnes qui viennent du monde entier. Hein. Ce sont des conférences qu'ils donnent publiques, gratuites, ouvertes à tout le monde bien sûr. Et alors là ce qui me fascine c'est ce silence absolu qu'il y a sous cette tente, tu vois. Pas un mot, tu entends une mouche voler. C'est en été, au mois de juillet, pas un bruit. Seule, cette voix de Krishnamurti qui s'adresse à la foule, mais aussi à chacun de nous qui s'adresse, tu comprends ? Son attitude est tellement simple que j'en suis complètement désarçonné, tu vois. Ce petit homme au visage que je trouve vraiment très beau, assis droit comme un nid sur une chaise en bois posée sur une estrade complètement vide, ça fait très ascétique, mais très simple, très correct. Mais je ressens vraiment qu'il émane de lui une puissante énergie, qu'il parle à partir vraiment d'une beauté intérieure presque palpable. Et puis alors surtout, Manu, c'est j'ai le sentiment qu'il transmet une espèce d'urgence pour que l'homme change s'il ne veut pas aller vers le chaos, tu vois. Et ben voilà, je ressens comme des espaces, des grands espaces fleurir autour de moi et en moi. Le sentiment d'une espèce de grande unité qui se dégage de cette tente et où on est tous réunis. Et j'avais vraiment jamais entendu parler et jamais ressenti d'un tel individu parler comme ça et dégager des énergies pareilles, quoi. Et là, quelque chose, c'est vrai, s'ensemence au fond de moi-même et me touche profondément. Mais heureusement, le soir, il y avait des traductions en français, donc on pouvait écouter, et là je pouvais comprendre les mots et commencer à voir de quoi il s'agissait, quoi. Alors c'est énorme pour moi comme prise de conscience. C'est qu'en lisant Krishnamurti, je me sens invité à me prendre totalement en charge. C'est ça qui est nouveau pour moi, à être complètement responsable de moi-même, tu vois. Et je constate qu'accuser l'autre de tous mes maux, de tous mes malheurs, de tous mes problèmes, quels qu'ils soient, est non seulement une erreur fondamentale, Mais c'est destructeur et vraiment pas du tout constructif. Trop facile d'accuser l'autre. Et qu'en fait, c'est moi-même qui produis tous mes problèmes. Je suis responsable de mes problèmes. Et ils se déversent dans le monde. Me voici donc, c'est pas évident, à être responsable de moi-même, de tous mes actes et de toutes mes pensées.
Mare quanto è bello, spira tanta sentimento, come tu a chi ti è da me ne to, cascetà te fai turna. Guarda, guarda, stucciolino, senti si esti sciurralante, nu profumo a crucifino, in tau core se ne va.
Ce fameux Krishnamurti, alors?
Eh oui, c'est une légitime question qu'il faut, tenter de débattre. Écoute, Manu, quand des gens posent la question à Krishnamurti, on a essayé souvent, qui êtes-vous? Rien, qui répond. Personne. Ah, qu'ils s'empressent de répondre. Donc, là, il va falloir qu'on fasse avec. Donc, je vais quand même, malgré cela, il a une vie extérieure, évidemment, comme nous tous. Hein. Bien qu'il soit né en Inde, comme nous allons le voir, il est autant, Manu, de culture occidentale qu'orientale. On peut même dire que Krishnamurti n'est ni occidental ni oriental. Son esprit est hors de toute identification à quoi que ce soit. Krishnamurti ne peut pas être classé comme un philosophe, un psychologue, un gourou, ni un penseur. C'est encore moins une autorité religieuse ou mystique, Manu. Mais moi, j'ai envie de dire que, par contre, c'est l'humain, l'humaniste, le pacifiste le plus vrai et le plus merveilleux que j'ai rencontré. L'être le plus rayonnant que j'ai vu de ma vie. On pourrait dire alors que c'est un panneau indicateur pour se connaître soi-même et se découvrir par notre propre vie de tous les jours, dans notre relation à l'autre. C'est un puissant miroir pour se regarder, pour me regarder tel que je suis. Oui, il indique, ou plutôt invite le chercheur, tout homme, toute femme, à éviter les pièges de l'illusion, des illusions. Et elles sont nombreuses, les illusions. Sa préoccupation constante, c'est de ne pas être une idole ou être pris pour un gourou. Chacun est son propre maître, dit-il. Donc avec lui, pas de secte, pas d'organisation, pas de nouvelle religion, car toutes ces formes entravent l'homme et ne le rend pas libre. Il insistera, Manu, et exposera toute sa vie qu'aucune structure extérieure, quelle qu'elle soit, ne changera l'homme. Si on veut changer le monde, dit-il, il faut se changer soi-même. L'inverse ne fonctionne pas, comme nous l'avons vu, au travers des âges. Ça serait peut-être une bonne campagne électorale à faire, ça, tiens.
Peut-être. Mais alors, donc, est-ce que tu peux nous parler de sa vie, à ce personnage qui a une vie assez, assez complexe, paraît-il.
Voilà. Donc, quand même, on va parler de sa vie. Dans les émissions suivantes, on va essayer de rentrer davantage dans l'enseignement de Krishnamurti. Disons qu'il est né dans le sud de l'Inde, dans un petit village qui s'appelle Madanapal, que j'ai visité, en 1895, dans une famille de brahmanes très pieuses. C'est le huitième enfant. Et dans les familles brahmaniques, on appelle le huitième enfant, quand c'est un fils, Krishna, en l'honneur du dieu Krishna, qui était lui aussi le huitième enfant. Le petit Krishnamurti est éduqué avec ses frères, selon la pure tradition hindoue. Ils sont bien sûr végétariens, évidemment, les brahmanes. Il est proche de sa mère, qui ressent en lui une grande destinée. Elle meurt, il a 10 ans, évidemment. C'est la catastrophe pour la famille, quoi. Nous sommes en 1880, elle est morte, il avait 10 ans, donc on est en 1905, hein. En pleine domination anglaise, le père est un petit fonctionnaire qui n'a plus les moyens seul de s'occuper de faire vivre sa famille. Par contre, alors là, il adhère à une société depuis quelque temps, les théosophes. Qu'est-ce que c'est que les théosophes ? Les auditeurs qui ont entendu parler de Rudolf Steiner sauront ce qu'est la théosophie. Rudolf Steiner a fait partie de cette société au XIXe siècle. Cette organisation internationale qui est créée au milieu du XIXe siècle par Madame Blavatsky, une Russe, très mystique, comme l'était le milieu du XIXe en Russie, qui est en rapport avec des maîtres, soi-disant, nord de l'Inde, tibétains, voilà. La théosophie se veut une religion universelle qui englobe aussi la science ésotérique et bien sûr la pratique de la fraternité entre les hommes. Ce sont des traditions issues du nord de l'Inde depuis des millénaires où existe cette connaissance des lois universelles qui régissent l'univers et l'homme. Voilà. Mais surtout, alors ce qui est intéressant pour nous, la théosophie se donne comme vocation de préparer la venue d'un nouvel instructeur de l'humanité sur Terre. Pas rien déjà ça, hein. C'est pas rien. Des maîtres l'annonçaient, voilà. Donc, à la mort de Madame Blavatsky en 1891, une autre dame, Madame Annie Besant, une Anglaise très dynamique, qui prend la relève de l'organisation de la théosophie. Cette dame deviendra ensuite, en quelque sorte, si tu veux, la tutrice de Krishnamurti, un peu sa seconde mère. Le centre mondial de la théosophie est à Madras, au sud de l'Inde, sur le bord de la mer. Et à la mort de sa femme, le père de Krishnamurti, avec ses enfants, part s'installer à la société théosophique, où il va occuper une fonction de secrétaire. Madanapal, où ils habitaient, se trouvait environ à 150 km. Et c'est là, dans cette société sur le bord de la mer, qu'un membre influent de la société théosophique, qui est doué d'une grande sensibilité spirituelle, découvre le jeune enfant qui marchait sur la plage avec son frère. Et il voit en lui un être exceptionnel, dépourvu d'ego. Et très vite, il faut bien le dire, les membres de la société théosophique, avec Madame Besant comme chef, pensent bien avoir rencontré en la personne de ce jeune enfant indien, et brahman, la personne qui va incarner le nouvel instructeur du monde. Eh bien dis donc, le nouveau messie même. Car cet enfant semble pur, dépourvu de tout égoïsme. Voilà, ils arrivaient, tu vois, à cette époque-là, encore maintenant, je ne sais rien, mais ils arrivaient à avoir les auras des êtres humains. D'après, il y en a qui peuvent voir ça encore. Bref, avec l'accord du père, le jeune garçon et son frère Nitya sont pris en charge par la société. Et ils sont éduqués, bien évidemment, aux bonnes manières de la société anglaise. C'était quand même la bonne société qui était là. Ils sont formés à tout l'enseignement spirituel, bien évidemment, que véhicule la société théosophique. En 1911, Annie Besant emmène donc Krishnamurti et son jeune frère à Londres pour recevoir tout le raffinement de la bonne société anglaise et tenter qu'ils poursuivent des études, même jusqu'à Oxford. Mais Krishnamurti n'a pas réussi à rentrer à Oxford, il n'aimait pas tellement les études. Mais par contre, il ira à la Sorbonne, à Paris, il étudiera le français. On l'entendra parler en français, il se débrouille bien en français, Krishnamurti. Voilà, ils resteront environ une dizaine d'années en Occident. Quel décalage, partir être né là-bas, tu te rends compte, venir couper de sa famille, de tout, quoi, pris en charge par... tous ces gens, ces théosophes à Londres, une dizaine d'années, ils restent là, en Europe, enfin, en Paris, Londres. Bon, je passe sur toutes les péripéties de leur éducation et des voyages que Krishnamurti commence à faire autour de la Terre. Il commence à enseigner partout et à endosser, tant bien que mal, le rôle que l'on veut lui faire porter. Et c'est là qu'après des séjours dans différentes parties du monde, mais particulièrement en Californie, où il est invité, il vivra toute une série de révélations que ceux qui s'intéressent peuvent lire dans des biographies que je citerai plus tard. D'expériences spirituelles intérieures qui se sont imposées à lui sans qu'il les ait recherchées. C'est une période aussi où Krishnamurti souffre énormément de multiples choses. Il ressortira de cela comme une transformation totale de son être, comme une purification, tu vois, transfiguration si on peut dire, une renaissance, ce qui va l'amener en 1929, donc il a donc 34 ans, à dissoudre toute l'organisation qu'il soutenait jusque-là et qu'il avait désigné comme chef. Donc, si tu veux, le 2 août 1929, Krishnamurti va annoncer la dissolution de l'Ordre de l'Étoile. C'est une association qui était fondée pour promouvoir la diffusion de son enseignement et qui comprenait des milliers de personnes à travers le monde. L'Ordre de l'Étoile, c'est une organisation au sein de la société théosophique encore. Donc, c'est là que tout ce jour-là en Hollande, dans le château d'Omen, toutes ces personnes qui étaient réunies, 2 ou 3 000 personnes, qu'il prenait pour le nouveau Messie, le nouveau instructeur du monde, et qui attendaient de recevoir de lui, tu vois, Manu, toutes les bénédictions du ciel. Ce jour-là, bah, ils s'en doutaient, parce que depuis 1 an ou 2, ils avaient préparé que ça n'allait pas continuer comme ça. Ils n'avaient pas envie qu'on le suive et que rien ne change, quoi, chez eux, quoi. Ça a été pour eux un désarroi absolu, car il allait en sorte les abandonner à leur propre image, cette personne qu'elles avaient de lui, à leur propre idolâtrie, car toutes ces personnes voulaient recevoir la vérité, la bouche ouverte, sans trop faire d'efforts, quoi. Voilà, mais donc cette chère Madame Annie Besant, qui reste le chef toute quand même, Krishnamurti restera quand même toujours avec beaucoup de respect et d'affection pour Madame Besant. C'est à partir de ce moment-là, on peut dire, 1929-30, que l'enseignement de Krishnamurti est basé sur sa propre expérience de la vie, de la vérité, si on peut dire, et non sur tout ce qu'on lui avait enseigné alors. Avec toutes les traditions, tu vois, d'occultisme, de spiritualité à travers la société théosophique. Et ce qu'il va dire ensuite à travers le monde durant plus de 60 années ne va pratiquement pas changer d'un iota. Qu'est-ce qu'il dit de si révolutionnaire? On va terminer cette émission aujourd'hui sur cette... citation de la dissolution de l'Ordre de l'Étoile. Krishnamurti dit, c'est très beau je trouve, et c'est une phrase qui va résonner dans beaucoup de gens à travers le monde, « La vérité est un pays sans chemin. » Ça veut dire que pas de croyance, pas de technique, pas de pratique, pas de maître. Vous êtes votre propre maître. C'est quand même pas évident tout ça à vivre. Alors, nous allons lire un extrait du discours qu'il a prononcé en 1929 à
Aumône. Je soutiens que la vérité est un pays sans chemin. Vous ne pouvez avancer vers elle par quelque voie que ce soit, par aucune religion, aucune secte. La vérité étant infinie, non conditionnée, inapprochable par aucune voie. On ne peut l'organiser, on ne peut pas non plus constituer une organisation pour amener ou forcer les gens à suivre un chemin particulier. Si vous avez compris cela, vous verrez combien il est impossible d'organiser la foi. La foi est quelque chose de strictement personnel. Vous ne pouvez ni ne devez l'organiser. Si vous le faites, elle meurt, se cristallise, devient un credo, une secte, une religion que l'on impose aux autres. C'est ce que chacun essaie de faire de par le monde. La vérité est réduite, elle devient un jouet pour les faibles, pour ceux qui ne sont mécontents que momentanément. On ne saurait abaisser la vérité. C'est l'individu qui doit s'efforcer de se hisser jusqu'à elle. Vous ne pouvez porter le sommet de la montagne dans la vallée. Je ne veux faire partie d'aucune sorte d'organisation de nature spirituelle. Comprenez bien cela. Voilà 18 ans que vous vous préparez à cet événement, la venue de l'instructeur du monde. Vous avez organisé, vous avez cherché quelqu'un qui apporterait une joie nouvelle à vos cœurs et à vos esprits, qui transformerait toute votre vie, qui vous donnerait une compréhension nouvelle. Quelqu'un qui vous ferait accéder à un autre plan de vie, qui vous encouragerait à nouveau, qui vous rendrait libre. De quelle manière une telle croyance a-t-elle balayé toutes les choses non essentielles de la vie? Voilà la seule façon de juger. De quelle manière êtes-vous plus libre, plus grand, plus dangereux pour toute la société, basée sur le faux et le non essentiel? Vous dépendez tous de quelqu'un, pour votre spiritualité, votre bonheur, votre illumination. Quand je dis « cherchez en vous-même l'illumination, la gloire, la purification et l'incorruptibilité de soi », chacun de vous ne veut le faire. Il peut s'en trouver un petit nombre, mais tellement réduit, tellement réduit. Alors à quoi servent les organisations? De plus, vous vous imaginez que seules certaines personnes détiennent la clé du royaume du bonheur. Nul ne la détient. Personne n'a l'autorité pour la détenir.
Jiddu Krishnamurti, son enseignement, une émission de Claude Ferré.